Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast de Nakan. Bon, vous êtes prêts ? Aujourd'hui, ça va être un épisode un peu frais, mais juste avant de commencer, je vous présente mon compère de podcast depuis toujours sur ce podcast, à savoir Monsieur Greg Chanez. Salut Greg, comment vas-tu ?
Bah écoute, moi ça va très très bien. Moi je suis tranquillement chez moi dans le gros de veau en Suisse et tout va bien. Je suis content d'enregistrer un podcast aujourd'hui avec toi et notre invité.
Alors tu es chez toi bien au chaud, c'est ça ?
C'est ça.
Je faisais un petit peu de cette allusion parce qu'avec notre invité, on va parler de plusieurs sujets. Mais l'un des premiers sujets qu'on va devoir aborder avec lui, parce que ça va venir en confrontation avec son histoire et avec les quelques prises de conscience qu'il a eues dernièrement, ça va être justement le contraire du chaud, à savoir le froid. Nous avons aujourd'hui autour de notre table virtuelle Leonardo Pelagotti. Ciao Leonardo.
Ciao, bonjour à tous et à toutes. C'est un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui.
Eh bien, c'est un plaisir partagé. Pour être totalement transparent, nous deux avons déjà eu l'occasion d'échanger sur un autre podcast qui s'appelle Devenir triathlète, que je produis également. Et Leonardo, on avait parlé plus spécifiquement avec toi du froid, de ton approche du froid, mais aussi un petit peu de la respiration qui va être le sujet sur lequel je voudrais arriver aujourd'hui. Peut-être avant de te donner la parole pour te laisser te présenter, je voudrais planter le décor. J'ai eu l'occasion de voir passer un des articles que tu avais récemment écrit, Greg, sur un petit appareil qui permet de travailler sa capacité respiratoire. Tu le testais de fond en comble, c'était un de ces fameux tests de fond en comble que tu proposes sur ton blog. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'était que ce produit et puis quel est un petit peu ton retour sur le produit en lui-même.
Oui, alors effectivement, c'est un test qui s'est déroulé depuis le mois de mars jusqu'au mois de septembre à peu près. Donc c'est un test longue durée. Hein. C'est pas habituellement, je teste des appareils ou des équipements sur 4-5 semaines. Mais là, il me fallait un peu plus de temps pour pouvoir compiler les tenants et aboutissants complets de l'efficacité de cet appareil. C'est un appareil qui se présente sous la forme d'un embout à mettre dans la bouche, un petit peu comme un détendeur de plongeur, si on voit un petit peu comment ça se présente. Et puis, en fait, il va offrir une résistance plus ou moins grande à l'inspiration ou l'expiration. Et puis, ça nous permet de travailler, en fait, ces deux aspects de la respiration. Ça s'appelle Aerofit, c'est une entreprise danoise qui, au début, s'est concentrée sur des études de traitement des personnes asthmatiques et puis qui a utilisé les résultats de ces études pour produire cet appareil qui vise pas forcément un côté thérapeutique pour les personnes qui ont du mal à respirer, mais plutôt un entraînement pour les personnes qui veulent augmenter leur capacité pulmonaire ou leur efficacité en respiration, et en particulier les sportifs. Donc moi, j'ai testé ça depuis le mois de mars jusqu'au début de mon Ironman qui était en septembre. Et alors évidemment, quand on lance une préparation Ironman, il y a énormément de paramètres qui peuvent faire que tu te sens de mieux en mieux dans ton entraînement. Il n'y a pas que la respiration, il y a l'entraînement de tous les jours, il y a les entraînements par intervalle à haute intensité qui font que tu sollicites à fond ton système cardio-respiratoire et puis qui forcément va s'améliorer peu à peu. Mais en tout état de cause, je me suis retrouvé au départ de l'Ironman avec une aisance au niveau de la respiration que j'avais rarement eu au départ d'une compétition en ayant utilisé cet outil de manière sérieuse, c'est-à-dire quasiment quotidiennement, en tout cas sur les deux derniers mois qui ont précédé mon Ironman, ça veut dire sur les mois de fin juillet, août et puis début septembre. Et c'est vrai que c'est très difficile de quantifier exactement le gain qu'on a pu avoir avec ce genre d'appareil, mais moi, je me sentais bien, en tout cas au niveau respiratoire, après avoir fait cet entraînement avec ça.
Bon, enfin, en tout cas, on remettra les liens justement de l'article que tu as publié sur le blog dans les notes de cet épisode. Comme ça, si nos auditrices et nos auditeurs veulent en savoir plus et veulent avoir ton ressenti justement après cette utilisation, ils pourront se référer à cet article. Je pense que tu as laissé les commentaires ouverts, donc on pourra aussi éventuellement commenter, continuer la discussion. En tout cas, le sujet du jour va nous permettre peut-être d'en savoir plus sur justement qu'est-ce que c'est que cette capacité respiratoire, cette capacité pulmonaire. Est-ce que on peut travailler avec ou sans appareil? Et justement, notre invité Leonardo Pelagotti va nous aider à comprendre tout ça. Mais déjà, Leonardo, je vais te redonner la parole pour te présenter à nos auditrices et nos auditeurs. Leonardo, qui es-tu? Que fais-tu dans la vie? Et puis, qu'as-tu fait avant de savoir de quoi on parle quand on parle de respiration?
Merci Herman. Et merci Greg pour l'intro sur la respiration. Les sports, c'est un lien très important, on va en parler. Donc moi je m'appelle Leonardo Pelagotti, j'habite en France aujourd'hui, des façons précises dans les volcans d'Auvergne, pour ceux qui connaissent, ça s'appelle le Cantal. Mais j'ai habité à Paris avant et je viens d'Italie. Voilà, vous entendez probablement mon accent et mon nom, les réveils. Donc moi, j'ai un passé des gymnastes au niveau national. Donc c'est un peu différent du triathlon, comme vous imaginez. C'est pas les mêmes types d'entraînement, mais je m'entraînais beaucoup. Pendant 15 ans, c'était 3-4 heures tous les jours non-stop. Je pense avoir fait en 15 ans quelques semaines de pause, et c'est tout. Et donc c'est les mouvements et le sport qui a vraiment forgé qui je suis en fait. Après, j'ai beaucoup voyagé. J'ai habité au Danemark. Vous parlez des Danois tout à l'heure, Stig, d'une petite ville danoise. Moi, j'habitais au nord de la Danemark. C'est là où j'ai commencé à faire du triathlon pour rigoler, mais vraiment pour rigoler parce que ma capacité aérobique à l'époque était nulle. Donc, j'étais presque incapable de faire quelque chose de plus long d'un triathlon sprint. Et je rigole pas. C'était vraiment quelque chose de réel. J'étais tous dans l'explosivité, dans la force. C'était gymnaste. Et après, j'ai vécu en Angleterre et ensuite, je suis arrivé en France. Et c'est en France où je me suis intéressé à tout ce qui est froid, tout ce qui est respiration, tout ce qui est force du mental par les biais de la méthode Wim Hof. On avait parlé dans l'autre podcast. Donc, je me suis intéressé au début simplement par curiosité, surtout pour tout ce qui était la gestion du stress de mon quotidien et les stress d'une compétition. Que c'était quelque chose que j'avais subi des façons importantes pendant mes années des compétitions au niveau national et j'avais jamais vraiment su apprendre à gérer cela. Et je me suis intéressé à la méthode Wim Hof. Ça m'a apporté des bienfaits sur tout ce qui est gestion du stress dans les quotidiens, mais aussi une bonne santé. C'est qu'il y a quelque chose qui m'a un peu manqué, disons, quand j'étais athlète de haut niveau, peut-être les surentraînements, peut-être justement ces stress qui n'aidaient pas. Mais j'avais pas en santé des très forte, très bonne, ce qui est le cas aujourd'hui, donc ça c'est très positif. Et donc je me suis lancé dans la découverte de cette méthode qui m'a ouvert plusieurs mondes, plusieurs portes. Un très important, c'est celui du froid. Un autre très très important, c'est celui de la respiration. Et enfin, c'est les pouvoirs du mental sur les corps. On pourrait l'appeler la force du mental, la concentration, le focus, ou l'épigénétique, en fonction de quelle terminologie on veut utiliser. Mais en tout cas, voilà, la méthode Wim Hof, ça a été mon premier outil pour travailler ces éléments. Et ensuite, je suis devenu coach Oxygen Advantage. Donc, ce sont des techniques de respiration qui visent vraiment à la respiration fonctionnelle dans la vie de tous les jours et à l'efficacité sportive. Donc, c'est pour les sportifs, mais pas que. Moi, j'ai travaillé avec Patrick McKeown directement, qui est le fondateur, comme j'ai travaillé avec Wim Hof, qui est le fondateur de la méthode Wim Hof pour former les instructeurs en Europe. Moi, je suis le référent en France-Italie. Et dans tout ça, je continue à m'entraîner. Je fais du yoga, je suis coach Animal Flow et j'ai créé Inspire Potential qui est mon entreprise.
Merci pour cette très belle introduction. Tu es revenu sur la méthode Wim Hof. On en avait déjà parlé à d'autres reprises, mais effectivement, la méthode Wim Hof, comme tu l'as déjà dit, elle se base sur trois piliers. Un, le froid. Deux, la respiration. Et trois, cette épigénétique, la force du mental et autres. Et c'est en découvrant finalement cette méthode Wim Hof que tu as découvert aussi les bienfaits de la respiration ou peut-être les méfaits qu'on pourrait y trouver si ce sont des exercices qui ne sont pas forcément faits en conscience ou qui ne sont pas forcément faits de manière régulière. Alors, justement, pour ce qui est de la respiration, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu plus concrètement de ce que c'est que la respiration ? Je pense que toutes celles et tous ceux qui nous écoutent respirent, sinon on aurait un petit problème, à moins qu'il y en ait qui écoutent le podcast en apnée. Un petit ping pour Arthur Guérin-Boëry si tu nous écoutes. En tout cas, s'il tient 45 minutes, je le félicite. Plus sérieusement, la respiration, je pense qu'on voit tous très bien de quoi on parle. Malgré tout, il y a une bonne respiration et une mauvaise respiration. Est-ce que tu pourrais rentrer un peu plus dans les détails avec nous de ce que c'est que cette frontière entre les deux types de respiration?
On parle des respirations souvent, mais on ne sait pas beaucoup. Moi, jusqu'à l'âge des 25 ans, je n'ai jamais pris un instant pour réfléchir et observer ma respiration. Ça veut dire que j'ai fait toute ma carrière de gymnaste au niveau national et toutes mes petites choses de mes premiers 25 ans de ma vie sans jamais m'intéresser à mon souffle, à ma respiration. Ça veut dire j'ai respiré comme tous, tous les jours, sans problème, mais j'ai jamais réfléchi à ce que je respire bien ou pas. Et je savais même pas comment il faut respirer bien ou comment il ne faut pas respirer. Je ne savais strictement rien. Et pourtant, on respire tous les jours autour des 20 000 fois. 20 000. C'est pas 10, c'est pas 15. Cela fait presque 15 kilos d'air. Ça veut dire que si on allait faire les courses tous les jours et en achetant la quantité d'air dont on a besoin, ça ferait 15 kilos dans notre sac à dos. Et c'est beaucoup plus de ce qu'on mange, ce qu'on boit. Et comme tu disais très bien, on ne peut pas vivre sans respirer. Et ok, on peut faire quelques apnées, sauf quelques champions comme Arthur que tu citais, qui d'ailleurs il a fait un stage de la méthode Wim Hof en Suisse avec moi. On peut pas rester plus que 3 minutes en apnée avant d'arriver un peu à la limite. Donc la respiration, c'est vraiment quelque chose de fondamental en termes des fréquences, quantité et impact sur notre vie. Et pourtant, il y a très peu de gens qui savent vraiment respirer. Et il y a même des études scientifiques qui ont été faites aujourd'hui, dans les derniers 3-4 ans, et qui ont montré que 9 personnes sur 10 ont une respiration dite dysfonctionnelle. C'est-à-dire qu'elle n'est pas bonne. Alors, on survit, hein, il n'y a pas, c'est pas que... Par contre, on a des mécanismes de compensation qui sont pas forcément formidables. Et si dans la vie de tous les jours, une personne peut les tolérer avec quelques compensations qui n'est pas forcément agréable, un sportif qui veut performer ne peut pas tolérer cela, parce que ça va sûrement impacter la performance. Alors après, on est tous sportifs à des niveaux différents. Mais en tout cas, moi, j'ai eu des bienfaits importants quand j'ai commencé à travailler ma respiration. Parce que comme tu disais, la respiration, ça peut être un outil extraordinaire qui est à la portée de tous, parce qu'elle est là, ça coûte rien. Si on sait quoi en faire, on a des bienfaits. Mais ça peut être aussi quelque chose qui nous empêche d'exprimer quelque chose de l'ordre de notre potentiel, entraîné, acquis ou naturel. Et même, on peut s'entraîner beaucoup. Mais enfin, la respiration peut être vraiment un frein à certaines performances physiques ou mentales. Et on sait très bien que les deux, c'est fondamental. Donc, la respiration, c'est important. Moi, de mon côté, je suis passé de quelqu'un qui respirait mal. Et je vous dis ça parce que les tests cardio-respiratoires à l'effort, les démontrer quand je faisais mes tests toutes les années pour faire mes compétitions, je devais passer chez les médecins, faire mes tests, électrocardiogramme, spirométrie, cardio-respiratoire à l'effort. Et les médecins, toutes les années, me disaient « Ah, écoute, c'est pas très bon. T'es un plus bas que la moyenne. » Et en année, je me rappelle, j'ai passé des examens cardiaques pour voir s'il n'y avait pas un problème au niveau de mon cœur. Et moi, j'étais un bon sportif, j'étais le capitaine de mon équipe pour plus de 10 ans, et donc j'étais un peu surpris de ce problème de la respiration. Mais dans la gymnastique artistique, je m'en sortais, disons, plus ou moins. Mais quand j'ai voulu passer à quelque chose de cardio, aérobique, si c'était juste courir 5 km ou aller faire du vélo, j'avais vraiment un handicap. Pour moi, c'était... Je rigole pas quand je vous dis que pour moi, faire 5 km de course était un accomplissement incroyable. Je les sentais comme quelque chose d'incroyable pour moi. Je vous cache pas, j'étais vraiment au niveau bas et j'ai pensé impossible pour moi faire un marathon, encore plus impossible faire un Ironman. Et aujourd'hui, donc fast forward quelques années après, j'ai travaillé la respiration tous les jours de façon quotidienne avec des techniques, des exercices qui sont très différents et variés. Qui peuvent venir de l'apnée, du pranayama, du breathwork, de la méthode Wim Hof, de l'oxygen advantage. Ils sont anciens, sont nouveaux. Et je travaille avec beaucoup, beaucoup de techniques. C'est un peu je me focalise sur ça. Récemment, je me suis spécialisé sur la respiration. Et les résultats sont concrets. Ça veut dire que quand j'ai refait l'année dernière, avant de faire mon demi Ironman en montagne, je fais un test cardio-respiratoire à l'effort, justement, pour voir un peu qu'est-ce que ça donnait. J'ai gagné 1 litre en capacité pulmonaire. Mais en faisant, moi, j'ai pas un entraînement d'apnéiste. Donc, les volumes pulmonaires, c'est pas quelque chose sur lequel j'ai travaillé de façon spécifique. Donc ça, c'est dans ce que je fais, ça m'a donné 1 litre en plus de capacité pulmonaire. Et je suis passé de 80% de la moyenne à 125% de la moyenne en capacité respiratoire.
Pour mettre en parallèle les chiffres que tu nous donnes, tu dis que tu as gagné 1 litre de capacité pulmonaire, de volume pulmonaire. Tu peux nous rappeler le volume d'un poumon, parce que 1 litre sur 50 litres, c'est pas énorme. 1 litre sur 3 ou sur 5, c'est déjà un peu plus conséquent.
Oui. En moyenne, c'est entre 4 et 6 litres, les volumes pulmonaires d'une personne moyenne. On peut avoir plus, et les apnéistes, ils travaillent justement dans cette direction-là, parce que ça leur intéresse, c'est grâce à la flexibilité de la cage thoracique et tout un tas de choses. Mais en moyenne, on a entre 4 et 6. Moi, j'étais plutôt proche de 4, et là, je vais plus proche des 6. Donc, ça fait un peu plus d'un litre. En tout cas, c'est plus de 20% pour moi. Donc c'est bon. Et quand j'ai dit 80% de la moyenne, je réfère à la capacité expiratoire, à la capacité inspiratoire et à la vitesse des échanges. Donc ça aussi, c'est intéressant. C'est ce que tu as entraîné, Grégory, je pense, avec l'aérofit. Et après, bien sûr, il y a l'impact sur les VO2 max et tout un tas de choses qui avant étaient moins des 40 et aujourd'hui est plus des 60. Mais sans vraiment faire un entraînement Incroyable. Donc, c'est plutôt lié à la respiration, ce que je vous dis. C'est pas lié à mon entraînement.
Donc, effectivement, là, tu as bien mis l'accent sur le fait que tu ne t'entraînes pas spécifiquement pour aller courir un half Ironman ou un Ironman complet peut-être un jour. A contrario, grâce aux entraînements que tu mènes au quotidien sur ta respiration, sur un petit peu d'entraînement course à pied, un petit peu de vélo, par rapport à il y a 5 ou 10 ans, quand courir un 5 km était une épreuve extrêmement difficile pour toi, et bien maintenant tu arrives à courir quelque chose qui est bien au-delà de tes capacités d'alors.
Ah oui, non mais enfin la chose la plus importante, parce que moi je fais plus des compétitions pour gagner, parce que je suis pas dans un club, mais je le fais pour les plaisirs. Ce qui est important pour moi, c'est que je peux faire des sports d'endurance avec plaisir et profiter de ces sports. Ça veut dire que je m'amuse à faire du vélo, je m'amuse à aller faire courir du trail, je m'amuse à nager et j'en sors régénéré et pas épuisé, sauf si la chose est vraiment énorme. Mais par exemple, pour moi, quand je faisais 5 km et je les faisais avec un temps piètre, et là je partage pas pour ne pas me faire rigoler, mais j'en sortais vraiment très fatigué. Vraiment fatigué, j'avais besoin peut-être des 24 heures au plus pour récupérer. Aujourd'hui, après 5-6 heures d'effort type demi-Ironman, j'en sors bien. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, parce que le corps a travaillé dans ce qu'on appelle une plage aérobique. Je pense que bon, les gens qui nous connaissent connaissent même mieux que moi, peut-être. Mais voilà, ça veut dire qu'on ne dépasse pas les seuils, on peut pousser un peu plus loin en étant capable d'oxygéner, donner ce que le corps a besoin pour aller. Et après, voilà, bien sûr, ça, c'est juste un partage par rapport à ce que la respiration m'a donné. Mais comme Grégory disait très bien, dans la préparation, on doit aller un peu plus de façon transversale sous les piliers. Il y a l'entraînement, il y a les sommeils, il y a l'alimentation, il y a l'hygiène de vie, etc., etc.
Alors, sur la partie respiration, justement, tu as confirmé ce que je disais, c'est-à-dire qu'il y a une bonne manière de respirer. Et puis, 9 personnes sur 10, donc 90% de la population, finalement, respire mal et génère des déséquilibres qui, dans une vie au quotidien qui n'est pas trop active, sont parfois compensés. Par contre, dès qu'on commence à chercher une activité un peu physique, et notamment faire du sport, surtout d'endurance, on va avoir plus de problèmes qui vont notamment être générés par ces déséquilibres. Est-ce que tu peux peut-être mettre ça un petit peu plus en image? Est-ce que tu peux nous permettre d'identifier un petit peu ces blocages, ces méthodes, ces points de compensation? Je pense par exemple, pour prendre une anecdote sur moi, c'est vrai que j'ai du mal à respirer de manière diaphragmatique. Donc j'ai du mal à respirer en sortant le ventre et en relevant le diaphragme. J'ai plutôt tendance à sortir le diaphragme, ce qui fait que ça va me générer des problèmes, notamment au niveau du bas du dos, avec des déséquilibres au niveau du bassin qui est mal placé, au niveau du diaphragme qui bouge tout le temps vers l'extérieur plutôt que de bouger plutôt vers le haut. Est-ce que tu peux nous expliquer justement quelles seraient des bonnes manières de respirer et peut-être comment on peut le travailler? Et enfin, troisième question, ça fait beaucoup de questions, est-ce qu'on peut travailler tout ça avec des appareils, notamment celui que Greg a testé?
Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle une respiration fonctionnelle. Ce qu'on appelle la respiration fonctionnelle, ça veut dire une bonne respiration au quotidien. Et on peut les décrire pour tout ce qui est un état de repos, déjà. Ça, c'est important parce que la plupart de notre temps, de toute façon, nous sommes au repos. Après, il y a aussi une respiration fonctionnelle à l'effort, en mouvement. Et bon, ça s'est rejoint quand même pas mal, mais il y a certaines choses qui changent. Au repos, ce qu'on appelle une bonne respiration, et là, je cite Patrick McKeown, c'est une respiration LSD. LSD. Parce qu'on se rappelle de cet acronyme.
Est-ce que ça a à voir quelque chose avec les petites pilules qu'on peut prendre en soirée?
c'est un acronyme. LSD, c'est Less, Slow and Deep. Donc, au repos, dans notre vie de tous les jours, Patrick nous conseille de faire une respiration qui est moindre en termes de quantité, parce qu'il y a tout un tas, là je ne vais pas vous expliquer, mais il y a tout un tas de problèmes aujourd'hui en lien avec l'hyperventilation chronique, c'est qui baisse notre tolérance au CO2 et c'est qui nous fait respirer trop en fait. Donc déjà de respirer peu, mais juste, c'est pas, on ne peut pas s'essouffler. Donc apprendre à faire plus avec moins, ça c'est la première, c'est la L, less. Slow, respirer lentement. Et deep, respirer avec les diaphragmes. Les diaphragmes, c'est les muscles de la respiration avec les muscles intercostaux qui aident aussi et qui permet de faire une respiration plus efficace. Mais là, c'est pas juste, c'est mieux parce que je l'ai entendu, c'est physiologiquement et mécaniquement plus efficace d'engager les diaphragmes pour respirer que d'utiliser la poitrine, qui est d'utiliser les abdominaux, qui est d'utiliser les épaules, qui est d'utiliser les dos, et uniquement les intercostaux. Vraiment, au niveau du volume mort, de la perfusion ventilatoire, de l'assimilation de l'oxygène et l'échange au niveau des alvéoles. Donc, cette respiration-là, ça s'appelle la respiration fonctionnelle. Tout cela, est fait par les nez. On inspire et on expire par les nez. Et il n'y a pas de question par rapport à ça, parce que les seuls et véritables organes de la respiration qu'il est corps humain a pour respirer, c'est les nez. La bouche est en voie d'émergence, c'est cool. Ben, pourquoi? Parce que si les nez étaient hors service 3 minutes, on serait vraiment en galère. Donc l'effet de pouvoir avoir en voie des secours, c'est très très important. Et effectivement, c'est utile aussi dans des moments où on est très essoufflé pour pouvoir réduire pendant quelques secondes, en expirant par la bouche, des taux de CO2 qui sont vraiment difficiles à gérer pour la plupart des gens. Mais hors de cela, la bouche n'est pas vraiment l'organe de la respiration. Donc c'est les nez. Quand on est au repos, les LSD, ça c'est comme ça. Quand on est en mouvement, les LSD, ça se modifie légèrement parce que les LES, ça n'implique plus. Il faut respirer ce dont on a besoin par rapport à l'activité physique qu'on est en train de faire. Donc ça, c'est la première chose. Les slow devient relatif parce que on peut respirer beaucoup plus vite si on a besoin. Par contre, les deep reste important. Ça veut dire utiliser la pleine capacité pulmonaire en engageant un mouvement qui utilise tous les poumons, donc diaphragmatique et intercostal, même jusqu'à la poitrine, ce qu'on appelle une respiration complète, et toujours par les nez. Et alors, là, c'est ce que j'ai comme question le plus souvent quand j'ai fait mes cours et mes stages, c'est est-ce qu'on peut vraiment respirer par les nez quand on fait du sport? Parce qu'effectivement, la plupart d'entre nous, ils s'entraînent et ils font en respirant par la bouche, parce que c'est plus simple. Mais la réponse, c'est oui. On peut faire tout ce qu'on fait en respirant par les nez, mais pas tout de suite. Ça veut dire que si on a plusieurs années de conditionnement à l'exercice physique par la bouche, il va falloir passer un temps d'adaptation et d'entraînement avant d'y arriver à faire la même chose par les nez. Mais il y a eu des études scientifiques sur ça, justement, parce qu'on s'est questionné, mais pourquoi dès qu'on commence à aller au-delà d'un certain seuil, on commence à respirer par la bouche? Pourquoi? Est-ce que c'est naturel ou pas? Et donc, ils ont testé sur des sportifs et ils leur ont fait respirer uniquement par les nez quand ils faisaient du sport, quitte à réduire leur intensité et tout ça. Et à la fin d'une période d'adaptation où ils ont appris à faire ça, qui était plus ou moins longue en fonction des cas, qui pouvait aller de quelques semaines à quelques mois, ils ont réussi à faire exactement les mêmes choses qu'ils faisaient avant, qu'ils avaient testé en termes d'intensité, en termes de durée, etc., par les nez, mais avec 22% en moins de ventilation. Ce qui est une bonne économie. Économie des courses, économie des gestes. Et donc, effectivement, même sur des gens qui n'étaient pas entraînés spécifiquement à les faire, ils ont appris à les faire et c'était plus efficace. Ce qui nous amène à, il y a des exercices pour apprendre à les faire. Et donc, enfin, oui, on peut faire aussi du sport en respirant par les nez et on peut l'apprendre. On peut apprendre à faire cela en faisant des exercices, notamment l'oxygène advantage, mais il y a d'autres choses. Et enfin, on a résolu une respiration plus efficace. Et quand la respiration est plus efficace, bah, notre geste est plus efficace. Nous nous fatiguons moins et on peut aller plus loin. Et en fait, moi, ce que je veux que vous retenez dans tout ça, on fait plus avec moins. Ça, c'est vraiment intéressant. On fait plus avec moins.
Bon, alors, on a trouvé la citation pour l'image Instagram d'illustration du podcast, hein, Greg. Faire plus avec moins.
Ouais. J'ai des questions de l'ordre de ces chiffres, en fait, de cette amélioration, parce que je pense que ça va intéresser plusieurs sportifs qui nous écoutent en ce moment, peut-être en train de faire leur activité sportive, qui sont en train de se dire, mais en fait, est-ce que je respire juste? Et puis, qui se disent, peut-être que je respire pas juste, mais que je vais pouvoir améliorer ça grâce notamment à tes conseils et puis aux différentes techniques qu'il existe de travailler ça. Mais alors, j'ai trouvé plusieurs informations, notamment durant le test que j'ai fait, hein, de l'aérofit. Et effectivement, en travaillant sa respiration, alors je suis pas allé jusque à la physiologie du mouvement respiratoire. Moi, je me suis vraiment concentré en fait sur les résultats mesurables de ce type d'entraînement. Et en gros, sur 3 paramètres, c'est-à-dire, tu en as déjà parlé, la capacité pulmonaire qu'il est possible d'augmenter en travaillant sa respiration. Et puis ensuite, son débit à l'expiration ou à l'inspiration. Donc, c'est vraiment 3 paramètres qui sont mesurables. C'est-à-dire qu'on peut soit le faire chez soi avec l'aérofit, si on le souhaite, ou alors on peut aller dans un service de pneumologie pour faire ça avec des appareils scientifiques en laboratoire et mesurer. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut concrètement mesurer. J'ai trouvé des résultats scientifiques qui montrent que c'est possible d'améliorer ces paramètres-là. Ensuite, j'ai eu plus de mal à trouver une corrélation qui me dit Tu nous dis, j'ai gagné 20% de capacité pulmonaire. C'est important, c'est même phénoménal comme chiffre. Et effectivement, on constate qu'on peut augmenter sa capacité pulmonaire à un tel niveau. La question que je me pose, et j'ai pas trouvé de réponse, et je sais pas si toi, tu as des pistes à nous donner, si j'augmente de 20% ma capacité pulmonaire, est-ce que je vais le constater de manière proportionnelle sur un test de VO2 max est-ce que ça va pouvoir être mesurable directement en termes de performance? Parce que on peut se dire, je gagne 1 litre de capacité pulmonaire, mais est-ce que vraiment je vais être plus performant en termes sportifs? Et pareil pour le débit, que ce soit à l'expiration ou à l'inspiration, est-ce que ça va avoir un impact direct sur ma performance sportive? Et est-ce que finalement, moi j'ai mis dans la conclusion de mon test que malgré tout, je me sentais plus à l'aise pour respirer, mais j'ai pas constaté une augmentation phénoménale de mes performances sportives après ça. J'ai juste gagné en confort. Donc du coup, est-ce qu'il y a des études ou est-ce que toi, tu as une expérience qui montre clairement une corrélation entre gain au niveau respiratoire, gain en termes de performance
sportive? Est-ce que déjà, ouais, je peux être de mauvaise foi? Parce que Leonardo, il nous a expliqué que pour respirer correctement, il faut respirer par le nez. Mais toi, ton appareil, tu l'as dit, c'est un embout qu'on met dans la bouche. Donc peut-être que déjà, tu n'étais pas parti sur le bon exercice, Greg, non?
Alors, je vais répondre aux deux. La première chose, c'est que s'il y a un entraînement sur un temps court pour un certain objectif spécifique, comme celui que faisait Greg, ce n'est pas la fin du monde si on utilise la respiration par la bouche. Même si moi, je l'ai fait plutôt par les nez, et ça existe. Il y a des alternatives par les nez. Et on pourra en parler peut-être à la fin si ça vous intéresse. Mais la question des Greg est très, très bonne. Et pour répondre à cela, je dois aller un peu plus loin dans la compréhension de la respiration dans sa totalité. Et là, je fais rapide, mais on pourrait en parler pendant des heures. Moi, je forme les nouveaux instructeurs Oxygen Advantage en France. Donc, je dois vraiment leur montrer une approche 360 degrés de la respiration. Et celui qui tu cites, les résultats que tu as eu avec l'aérofit, c'est ce qu'on appelle la dimension biomécanique, qui est une des trois dimensions de la respiration, qui est importante. Et comme tu dis, je suis un peu plus à l'aise parce que j'inspire, j'expire plus vite, très cool. Ça m'est fait du bien, mais est-ce que je suis vraiment plus efficace au niveau biochimique? Parce que tu me parles de VO2 max. Et là, je t'ai dit, clairement, c'est pas forcément corrélé. Parce que c'est une autre dimension. Il y a des liens, mais c'est pas la même chose. Parce que ce que tu parles, VO2 max, c'est la dimension biochimique. C'est l'utilisation au niveau cellulaire de l'oxygène. C'est ce qu'on appelle l'effet Bohr, la cascade de l'oxygène, la perfusion ventilatoire. Il y a tout un tas de choses. Les deux sont liés, mais c'est pas la même chose. Donc, un qui a 8 litres de volume pulmonaire et un qui a 6, c'est pas forcément celui qui a 8 litres qui a un VO2 max plus haut. Et après, bien sûr, il y a l'entraînement, comme tu sais très bien, l'efficacité des muscles à utiliser, il y a beaucoup de choses. Donc ça, c'est deux dimensions de la respiration. Enfin, il y a une troisième, la dimension psychophysiologique. Donc c'est, par exemple, les liens avec les systèmes nerveux autonomes, l'HRV, la capacité de récupération, éviter les blessures, avoir la gestion du stress pendant l'effort, libérer le mental. Et ça aussi, c'est pas exactement les VO2 max, mais on sait très bien que si on consomme moins d'oxygène au niveau mental parce qu'on est relaxé, ça va nous aider à l'utiliser ailleurs et ça nous prend moins d'énergie, et etc., etc. Donc il y a un lien, mais c'est pas direct. Donc par exemple, moi je connais pas une étude qui dit que si t'as plus de litres au niveau pulmonaire, ton VO2 max forcément augmente. Moi je pense que ça aide en tout cas de pouvoir avoir des poumons plus grands et plus petits, parce que tu peux aller un peu plus loin dans l'effort, mais encore il va falloir pouvoir les remplir, ces poumons. Parce que même si tu as 10 litres, mais en fait, tu n'as pas gagné sur les gestes, ça se trouve que tu n'as pas la vitesse nécessaire pour les faire. Et donc, ces poumons-là, tu les as potentiellement très grandes, mais tu les utilises à un petit volume. Et si ton geste respiratoire, même si ton diaphragme est plus musclé, et encore, il faut que le diaphragme soit plus musclé. Est-ce que la force de ton expiration et de ton inspiration est forcément liée au fait que tu as musclé le diaphragme? Pas forcément. Il y a un lien, mais il y a les intercostaux, il y a les muscles auxiliaires. Donc, c'est un peu plus complexe que c'est là. Mais certes, travailler sur la respiration, déjà, ça donne quelque chose. C'est une bonne piste. Et je pense que c'est vraiment quelque chose d'utile. Alors, mon avis personnel, c'est qu'il vaut mieux utiliser des techniques respiratoires, hein, prendre conscience et savoir exactement sur qu'est-ce qu'on travaille, plutôt qu'utiliser un outil qui nous donne des résultats sur une application, Mais je comprends très bien l'intérêt de voir des résultats quantitatifs quand on s'entraîne, parce que ça motive. Et on sait plus ou moins où on va, surtout pour les gens qui n'ont pas une connaissance énorme sur la respiration et qui font ça un peu chez eux. Alors certes, travailler avec quelqu'un qui nous conseille, un spécialiste de la respiration, ça peut être quelque chose d'utile. On n'a pas tous l'occasion, les temps, etc. Mais donc voilà, pour te répondre, je pense que c'est une première étape, mais ça, on doit aller un peu plus loin. Par contre, je sais qu'il y a des études qui montrent que des exercices de respiration ont augmenté les VO2 max, les PO naturels, l'hématocrite, etc. Ça, il y a. Mais ça, parce que c'est la sphère biochimique. Et les exercices de respiration qui ont été utilisés impactaient la sphère biochimique. Et donc, oui, ça, j'ai les études, j'ai les références. Il y a un Français à Paris, Warren Xavier, qui travaille beaucoup. Et il a fait des études 2017, 2018, 2019, qui sont assez incroyables, où on voit que les VO2 max sur des sportifs d'élite augmentent de plus de 15%. C'est des trucs, des dingues. Parce qu'en quelques semaines, ça existe. Par contre, biomécanique VO2 max, ça, je ne connais pas.
Ça, c'est encore un autre domaine. Mais effectivement, je te remercie pour la réponse parce que, bah, d'une part, elle corrobore un petit peu mon feeling que j'ai eu par rapport à mon test de l'aérofit. Puis voilà, elle corrobore un petit peu les conclusions que j'ai faites. Mais j'ai une question très, très pragmatique pour toi. Si aujourd'hui, aux auditeurs qui se demandent, est-ce que j'aurais un bénéfice à travailler ma respiration, à prendre conscience qu'il faut que je fasse quelque chose? Si je leur dis aujourd'hui, vous faites un entraînement d'intensité élevée, que ce soit à course à pied, natation, cyclisme, peu importe. Le conseil très pratique, si vous sentez que le facteur limitatif, c'est la respiration, eh bien, vous devriez peut-être vous intéresser à la question et puis vous dire, il y a quelque chose qu'il faut que je travaille là-dedans. Si vous sentez que le facteur limitatif, il est musculaire ou il est au niveau du mouvement, eh bien, travailler la respiration, c'est pas la priorité encore. Il faut essayer de rendre efficace la musculature, la biomécanique. Et puis ensuite, au moment où c'est la respiration qui devient un facteur limitatif, c'est le moment de s'y inquiéter. Est-ce que tu es d'accord avec cette recommandation-là?
Alors, moi, je pense qu'on a tout le temps quelque chose à gagner à avoir une respiration efficace. Moi, je pense que la plupart d'entre nous, il n'a pas une respiration efficace au départ, même les grands sportifs. Au contraire, beaucoup des sportifs qui s'entraînent beaucoup, ils ont une mauvaise respiration parce qu'ils ont dû aller au-delà un peu de leurs limites et forcer, ce qui peut générer des lasmes d'effort, etc. Moi, ce que j'ai dit qui est très, très important et il faut faire attention, c'est l'aspect blessure. Et il y a une corrélation importante entre respiration fonctionnelle, mouvement fonctionnel ou respiration inefficace et blessure. Et en fait, on sait très bien qu'on se blesse plus si on respire mal quand on fait du mouvement. Donc surtout quand on fait des séances haute intensité, si la respiration derrière ne suit pas, il y a plus des chances de se faire mal ou au moins de récupérer moins vite et de risquer un surentraînement, donc une blessure type inflammatoire, pas forcément mécanique. Donc à mon avis, il y a un intérêt à voir la respiration comme un moteur qui permet au mouvement d'exceller. Moi, ce que je conseille, c'est de les travailler en même temps. Et pas forcément avant ou après. Parce qu'on est sportif, on va pas dire, tu arrêtes ton mouvement, tu fais que la respi. On va pas non plus dire, la respi, tu les feras qu'après. Il faut un peu essayer de faire ensemble. Alors, la quantité, il faut l'avoir, effectivement. On n'a pas tous les mêmes besoins en termes d'entraînement respiratoire. Mais il y a des tests. Moi, j'ai développé un test qui est sur mon site internet. Si vous voulez, ça s'appelle Inspire Potential. Il y a un test. Ça vous dit un peu sur quels paramètres, là, il y a un problème. Et ça se trouve que vous pouvez cibler un peu votre entraînement respiratoire parce qu'il y a des choses qui vont déjà bien. Donc, ça vous demande un type d'entraînement différent. Mais ouais, il n'y a pas, une solution miracle sur la respiration. Tu fais un exercice et c'est bon. C'est un peu plus complexe que cela. C'est qui, effectivement, rend la chose un peu tridimensionnel, comme je vous disais. Voilà, c'est pas juste une chose, quoi.
Peut-être pour compléter, alors j'ai absolument pas les compétences techniques ni scientifiques pour m'aventurer là-dessus. Par contre, ce que je dirais pour répondre à ta question, Greg, c'est peut-être que on va plutôt essayer d'avoir une démarche préventive plutôt que d'attendre que la maison brûle pour aller jeter de l'eau dessus. Donc, pourquoi est-ce qu'on attendrait de sentir que le facteur limitant de notre entraînement, c'est la respiration, pour se dire, bon, là, je vais travailler la respiration. Peut-être que, effectivement, on peut mettre l'accent sur la partie entraînement, peut-être physique, et en parallèle, travailler aussi un petit peu la respiration. Parce que à contrario de d'autres éléments de l'entraînement où effectivement on se dit, et notamment tout ce qui est peut-être relaxation, yoga, étirement ou autre, préparation physique généralisée, ça va être des exercices qu'on va devoir faire à côté, en plus de l'entraînement. En revanche, pour ce qui est de la respiration, et là j'en appelle à tes compétences, Léonard, une fois qu'on a pris conscience peut-être des problèmes qu'on avait dans notre respiration, ou peut-être une fois qu'on a pris conscience aussi des exercices simples qu'on pouvait mener au quotidien, et ben finalement on peut aussi travailler sa respiration en menant une journée classique, en étant assis derrière son écran au bureau, en étant debout derrière une chaîne de montage quand on travaille dans une usine, en étant en réunion avec ses collègues, en train de les écouter, en train d'échanger, et peut-être même que c'est aussi une manière de travailler en faisant un petit peu d'apnée ou en travaillant sa respiration tout en parlant et en échangeant ses idées et en essayant de se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Je ne sais pas ce que vous en pensez, messieurs.
Oui, moi je partage totalement. Il y a certains exercices qui devront être faits à côté, et là on n'a pas le choix. Mais il y a tout un tas de choses qu'on peut faire déjà pendant notre quotidien sans que ça prenne plus de temps, mais parce qu'on connaît. On connaît, donc on corrige, donc on a déjà des gains. Et ça, c'est très intéressant, effectivement. On peut les faire en voiture quand on conduit. Il y a tout un tas, en regardant la télé, en travaillant à l'ordi. Il y a tout un tas de moments dans notre journée où le simple fait de corriger des choses et pouvoir faire deux, trois éléments, ça nous apporte des bienfaits. Et ça, je pense que c'est intéressant et c'est un peu ma façon de travailler la respiration, parce que n'ayant pas des objectifs, des records ou des compétitions très spécifiques, j'ai un quotidien chargé, je mets les choses comme je peux, je fais certains exercices à part, c'est mon moment, ça m'a fait tellement du bien, je le fais avec grand plaisir, mais c'est pas 3 heures par jour, 6 heures par jour, c'est peut-être plutôt 15-20 minutes, donc le reste, je les fais plutôt en même temps d'autres choses.
Et je dirais même, je pousserais même le bouchon un peu plus loin en disant, pourquoi ne pas faire certains exercices en s'entraînant ? Je sais que mon entraîneur, qui m'a parfois accompagné sur des sorties longues, au bout d'un moment me disait, maintenant, tu continues à courir, évidemment, mais on se met en mode respiration ventrale, ça va détendre ton bassin, ça va détendre tes lombaires, ça va te permettre d'avoir une autre respiration, de te poser autrement. Est-ce que tu valides ça ? C'est-à-dire travailler sa respiration, encore une fois qu'on en a conscience, une fois qu'on sait les exercices à effectuer, une fois qu'on sait les faire correctement, parce que on a récemment parlé aussi du gainage avec Greg, et travailler le gainage pour faire des exercices qui sont complètement tordus et qui vont créer d'autres déséquilibres, c'est peut-être pas la bonne idée, donc je pense que c'est pareil pour la respiration. Travailler sa respiration une fois qu'on a conscience de tout ça, c'est aussi des exercices qu'on peut faire en s'entraînant.
Ah oui, absolument. Et moi, je conseille avec des athlètes que je suis de faire tout un tas d'exercices de respiration, justement, en mouvement. Au début, peut-être, il va falloir les acquérir en statique pour savoir quoi on fait. Mais ensuite, on peut les faire en marchant, en faisant du vélo, en courant, en natation, en faisant d'autres sports qui ça peut être l'haltérophilie, ça peut être... Il y a plein de choses. En tout cas, tout ce qui est mouvement fonctionnel, ça veut dire les simples mouvements, squat, pompe, courir, marcher, des choses où la technique n'est pas forcément quelque chose qui nous prend trop de complexité. On peut faire des exercices de respiration et même, c'est très intéressant de les faire. Et on était avec les raiders, ceux qui courent les grands raids de La Réunion il y a quelques semaines. J'étais à La Réunion 2 semaines avec eux pour les entraîner. Donc un trail quand même assez costaud, des gens qui quand même ils ont un niveau qui n'est pas rien, ont travaillé avec des exercices de respiration en courant. Donc ils les faisaient à la fin de leur séance, les derniers 15-20 minutes, ils se commençaient à faire des exercices et ça c'est sympa.
J'aimerais juste intervenir, en fait cette intervention j'aurais peut-être pu la faire un tout petit peu plus tôt dans l'épisode, mais c'est quand même important pour moi. On parle depuis le début de gens qui respirent mal. Hermano tout à l'heure nous a dit prendre conscience de ses problèmes de respiration. Alors c'est vrai que la terminologie est ici extrêmement négative voire accablante. On pourrait imaginer qu'un auditeur se dit mais est-ce que je respire mal, et puis est-ce que respirer mal c'est que je mets ma vie ou ma santé en danger. Pour moi, quelqu'un qui respire mal, c'est quelqu'un qui est voilà en détresse respiratoire ou qui a du mal. Est-ce que on peut pas plutôt parler de respiration normale et d'optimisation de sa respiration ? Parce que est-ce que vraiment on doit utiliser une terminologie aussi, je dirais entre guillemets violente, hein, de dire on respire mal et on a des problèmes de respiration, ou est-ce que on a un potentiel d'optimisation de sa respiration ? Parce qu'à la base, peut-être que comme vous l'entendez, plusieurs personnes dans mon club ou autour de moi qui font du sport avec moi respirent mal, mais moi je les ai jamais vus couchés par terre à l'agonie, à la détresse et en train de dire de l'air, de l'air. Donc voilà, juste pour la terminologie, est-ce que c'est pas plutôt plus réaliste de dire on a une optimisation possible, mais à la base on respire quand même bien?
Alors, il y a les deux. Il y a les deux et c'est intéressant parce qu'effectivement, on peut optimiser notre respiration pour être encore mieux et enfin exploiter un potentiel autre. Et je pense que c'est le cas pour les gens qui sont en santé, sportives, etc. Mais il y a tout un tas de personnes qui respirent véritablement mal. Et c'est là un impact négatif sur leur santé. Alors, c'est pas direct comme, je sais pas, comment dire. C'est plutôt des choses chroniques qui viennent dans les temps. Mais aujourd'hui, il y a des études scientifiques qui les montrent que faire une chose ou l'autre en termes de respiration, par exemple, respirer par la bouche de façon chronique, hyperventiler de façon chronique, respirer avec les hauts des poumons de façon chronique, ce sont des gestes qui ont un impact sur notre santé sous les longs termes, qui peuvent même amener à l'apnée du sommeil, qui peuvent ensuite amener à des problèmes chroniques comme les diabètes, l'hypertension, les troubles cardiaques. Il y a un impact sur la santé si on respire en faisant un certain nombre de choses. Et c'est pas bien. Alors après, la terminologie, il faut pas non plus, bien sûr. Moi, j'ai dit tout le temps, mais vous inquiétez pas. Si vous avez fait tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant sans savoir comment respirer, bah, au moment où vous mettez à corriger certaines choses et faire mieux, mais ça peut qu'aller mieux. Donc ça, c'est presque une bonne nouvelle pour les gens. En fait, jusqu'à maintenant, vous avez pas pris conscience d'une chose et là, vous n'en prenez conscience. C'est génial parce que tout ce que vous faites, ça va vous aider. Donc moi, je les mets sur ces termes. Je ne sais pas, ah non, toi, t'es mauvais, toi, t'es méchant. Bien sûr, il ne faut pas se décourager. Mais l'effet de pouvoir en prendre conscience et savoir l'améliorer, ça va vraiment nous aider. Et ça peut, pour certains gens parler des performances, mais d'autres, c'est juste santé. Et c'est énorme, par exemple, ce qui peut nous amener sur la gestion du stress pour tout un tas de personnes qui n'ont pas envie de courir un Ironman. Ils ont juste envie d'être moins stressés, mieux dormir la nuit, donc se régénérer un peu mieux, donc moins vieillir, ralentir un peu leur rythme cardiaque, ça c'est vraiment très cool. Et après, je pense que nous, on se rend pas compte parce qu'on est sportif et jeune, mais les personnes moins sportives, un peu plus âgées, sur l'essoufflement, c'est quelque chose qui commence à percuter plus souvent que ce qu'on pense. Et moi, j'ai tout un tas de gens qui me disent, dès que je fais quelque chose, je me sens essoufflé. Et se sentir essoufflé, c'est horrible. Ça, on le sait. Et mais se sentir essoufflé parce que t'as fait un sprint, ok. Mais se sentir essoufflé parce que t'as marché, t'as fait un escalier ou parce que tu portes un sac, ça commence à être difficile pour le quotidien.
Petite question complémentaire, c'est ma dernière question que j'ai encore par rapport à cette thématique. Si on travaille, on améliore sa respiration de manière consciente, que ce soit pendant le sport, tu nous donnes des conseils pour le faire pendant qu'on fait du sport ou on fait des exercices dédiés à côté. Est-ce que notre respiration s'améliore également lorsqu'elle est faite de manière inconsciente, par exemple pendant qu'on dort ou quand on n'y pense pas, est-ce que on a un gain qui est là, qui s'installe et qui reste valable même dans ces situations-là?
Ouais, très bonne question, mais t'es trop fort sur la respiration, Greg, hein. Tu pourrais être un coach de la respiration. Effectivement, c'est l'objectif. Et quand tu travailles pendant le jour, c'est là, ça a un impact sur ce qu'on appelle la respiration automatique, autonome, celle qui s'exprime quand tu penses pas, parce que la respiration, c'est à la fois un geste inconscient et conscient. Et l'objectif, c'est avec la conscience de la respiration et des techniques et des exercices de respiration, pouvoir changer la respiration que tu fais de façon inconsciente quand tu y penses pas. Parce que, sauf les yogis affirmés parmi nous qui nous écoutent, on a tous des moments où on ne pense pas comment on respire. Et on a besoin que cela, ça se produise toujours bien. Alors, au début, ça va pas être le cas. Donc, on va falloir corriger, parce que peut-être ça fait 15, 20, 30, 40 ans qu'on respire de façon différente de cela, donc pas optimale. Donc, il va falloir y revenir. Mais je vous assure qu'à un certain moment, cela devient automatique. Parce qu'on l'a tellement ancré, et on sait qu'il faut faire comme ça, que le corps va suivre, parce qu'il veut travailler avec nous. Même la nuit. Et ça, c'est important pour tous les gens qui ont des troubles de l'apnée du sommeil, du ronflement, et qui ont des problèmes la nuit. Il y a plein de gens qui dorment avec des machines. Et l'effet de pouvoir faire des choses les jours, qui impactent aussi la nuit, c'est important. Après, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire aussi la nuit. Mais moi, je l'ai observé sur moi, parce que déjà j'ai corrigé la façon dans laquelle je respire. Là maintenant, disons, c'est plus ou moins acquis. Je fais encore quelques erreurs, mais ça va. Donc ça veut dire que les changements étaient possibles. Mais aussi pendant la nuit. Moi, j'étais quelqu'un qui respirait par la bouche la nuit, bah, pas tout le temps, mais très souvent, tu t'es réveillé avec la bouche très sèche, etc., etc., ce qui impacte vraiment la qualité du sommeil, et donc on se régénère moins ou pas. Et donc on se réveille fatigué, on l'a tous expérimenté, les réveils fatigués, si tu as eu tes heures de sommeil, ça ne devait pas être normal. Et moi, j'ai observé que maintenant, si ça arrive que j'ai inspiré par la bouche, respiré par la bouche pendant la nuit, je me réveille. Donc, c'est tellement ancré ces gestes de correction que quand ça arrive, pour tout un tas de raisons, la position, ce que j'ai mangé, ou ça peut être d'autres choses, la chaleur dans la pièce, hein, je me réveille au moment où je suis en train de les faire et je me corrige. Donc, ça va bien loin. Mais moi, j'y travaille depuis quelques années. C'est pas après 3 semaines que cela s'est mis en place. Voilà.
Non, mais je voulais juste rajouter une petite pointe d'humour. Je pense que je vais me connecter sur ton site et puis je vais voir dans quelle mesure je peux offrir une séance de respiration, plutôt une séance de prise de conscience de respiration à mon papa qui souffre de beaucoup de problèmes d'apnée du sommeil. Et puis, comme il est italien, eh ben forcément, je pense que ce sera beaucoup plus facile pour vous pour communiquer.
Avec plaisir. Avec plaisir. Mais en fait, je voulais vous dire, pour les gens qui s'intéressent à la respiration, moi, j'ai fait beaucoup des tutoriels sur ma chaîne YouTube qui s'appelle Inspire Potential, ou même du blog, j'ai écrit des choses et j'ai même créé un test gratuit sur mon site internet pour évaluer son efficacité respiratoire, donc pour savoir si on respire bien, pas bien ou très bien, et vous voyez ça. Et après, si ça vous intéresse, il y a des formations, il y a un livre que j'ai écrit sur la respiration, donc voilà, il y a plein de possibilités.
Ah bah tu nous as fait une magnifique conclusion, parce que finalement j'ai pour habitude, quand on reçoit des invités, de leur demander où est-ce qu'on peut les retrouver sur internet ou sur les réseaux sociaux pour pouvoir continuer l'échange avec nos auditrices et nos auditeurs qui pourraient avoir d'éventuelles questions. Donc tu nous l'as dit, ton site Inspire Potential, on le rappelle, tu es instructeur de la méthode Wim Hof en France et en Italie, tu as lancé ce service de conseil Inspire Potential, et puis tu es aussi formateur Oxygen Advantage. Une dernière question, parce que vraiment ça me titille, on n'en a pas parlé dans le dernier épisode de Devenir Triathlète, tu nous as parlé de Animal Flow. Qu'est-ce que c'est que l'Animal Flow et quel lien entre la méthode Wim Hof, donc le froid, la respiration et la force du mental, la respiration justement dont on vient de parler pendant quelques temps, et cet Animal Flow?
Ah, l'Animal Flow. Alors l'Animal Flow, c'est du mouvement naturel au sol. Donc on utilise les corps au sol pour faire des mouvements sur des plans transversales qui peuvent rassembler par exemple au yoga, à la gymnastique ou à la capoeira. C'est un peu un mix entre les arts martiaux, le yoga et la gymnastique, et on fait tout ça au sol. Et ce sont des mouvements élégants qui ont l'air d'être un peu simples, mais en réalité, ils travaillent en profondeur sur certaines chaînes musculaires et certaines connexions musculaires qu'on n'a pas l'habitude de faire. Donc, c'est très intéressant. Et ça travaille sur le fascia aussi. Donc, ça, c'est intéressant. Et en fait, on peut se rendre compte de certains déséquilibres d'entraînement de nos chaînes musculaires. Et moi, je me suis dit, je vais les faire comme ça pour m'amuser, ça va être simple. Et je suis parti faire ces stages pour devenir instructeur. Et en fait, même si j'étais gymnaste, je faisais du yoga et je faisais tout ce que vous voulez, et il y avait certaines connexions des chaînes musculaires qui étaient faibles d'un côté, le côté gauche, et fortes du côté droit. Ce qui rend un corps potentiellement déséquilibré. Et certains muscles profonds que j'observais n'avoir pas entraîné depuis longtemps. Donc c'est très intéressant pour les liens posturels, mais c'est un peu la base, c'est un peu les fondamentaux. On se renforce, ça peut être un échauffement, ça peut être un fin d'entraînement, et ça permet aussi de travailler en bonne respiration, parce que ce ne sont pas des mouvements très rapides ou très complexes, c'est des choses au sol qu'on fait simplement une fois qu'on acquiert les gestes de base, et ça peut nous permettre de travailler en bonne respiration en même temps. Et donc les liens avec l'essoufflement. Donc moi je trouve intéressant dans ce sens-là, et en même temps ça travaille sur la coordination. Alors on n'a pas tous les mêmes niveaux des proprioceptions. Alors pour les gymnastes, c'est qu'ils en font des arts martiaux, etc., c'est des gestes simples, c'est l'idée de l'Animal Flow. Mais pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude, ça peut déjà travailler sur la proprioception, la coordination musculaire, la coordination de cerveau au corps, etc. Moi je le trouve intéressant, et c'est vrai qu'on n'a pas trop en parlé, mais je l'intègre dans mes stages. Donc moi, j'organise des stages, des retraites et tout ça. Je ne fais pas uniquement des cours Animal Flow, parce que j'ai trop de choses, mais je l'intègre dans mes stages.
On aura bien compris l'intérêt de ces différents piliers. On en a parlé, l'entraînement, On a parlé aussi rapidement du sommeil. Je pense qu'il faudra qu'on se programme un autre épisode là-dessus, Greg. L'alimentation et puis la respiration et le renforcement des muscles profonds, notamment via l'Animal Flow. Mais on a fait un épisode il y a quelques temps avec Greg où justement on parlait du gainage. Donc voilà, la boucle est un petit peu bouclée, même si on a encore des milliers de sujets et de thématiques à aborder. Greg, est-ce que tu voudrais apporter une dernière lumière dans cet épisode pour conclure ?
J'ai épuisé mon stock de questions. Je remercie Leonardo d'avoir répondu à toutes ces questions et puis de nous avoir donner autant de détails sur la respiration. Je me doutais pas que c'était un sujet aussi vaste, hein. Au moment où j'ai commencé à m'intéresser à l'aérofit, c'est vrai que j'ai touché un petit peu cette thématique-là pendant l'été passé. Et puis bah là, Leonardo est venu vraiment compléter toutes les trous qui pouvaient encore y avoir dans mes questionnements, dans mes interrogations par rapport à ça, par rapport à la respiration dans le sport. Donc je le remercie d'avoir participé à cet épisode de podcast.
Merci à vous, c'est avec plaisir.
Merci à tous les deux, je vous souhaite une bonne continuation. Chères auditrices, chers auditeurs, le petit rappel habituel, n'oubliez pas, si vous n'avez pas encore laissé un petit commentaire et une petite note 5 étoiles évidemment sur Apple Podcast, eh bien on vous invite à aller le faire. Le podcast, c'est Nakan, le podcast des sportifs connectés. On vous remercie pour votre attention et on espère que vous avez passé un très bon épisode. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode en tête à tête avec Greg, bien entendu.
À dans 15 jours.
Ciao, ciao.
Ciao.